Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Il est noir sur le 102.2 de Radio Canu. C'est l'émission de la coordination des groupes anarchistes. C'est un petit peu spécial ce soir. On n'a pas notre cassette. On nous l'a planqué, notre cassette. Et puis donc, voilà, le générique sera écourté pour cette raison.
On n'a pas la deuxième partie, non,
effectivement. Donc, on va pouvoir démarrer. Tout de suite, des annonces, c'est pareil, il n'y en avait pas trop, enfin on n'en a pas trouvé pour ma part, et puis on va démarrer tout de suite par une page d'actualité.
Ouais, donc du coup c'est très bien, en fait il y a des travaux du coup qui sont en cours à Radio Canu,
voilà.
Qui vont être toutes belles, toutes jolies, mais du coup c'est vrai que du coup les casiers ont été mis dans les bureaux, on n'a pas toutes les tout le monde n'a pas les clés, c'est pas très grave, donc on a réussi à trouver une petite partie du générique, vous ferez sans la deuxième partie un peu plus rock habituelle, et on va démarrer par un petit appel aux dons. Alors on rappelle déjà qu'il y a celui de Radio Canu qui est toujours effectif. Donc voilà, vous pouvez vous rendre sur le site de Radio Canu, il y a tous les liens qui sont à votre disposition pour donner. Tout est expliqué.
On a tous besoin d'argent.
Oui, mais c'est ça, mais je pense qu'ils appellent aux dons.
On vit dans une société d'argent, et on vit. Donc on fonctionne avec de l'argent, malheureusement, voilà. C'est comme ça. C'est le même cas aussi.
Voilà. Il y aura bientôt aussi un appel aux dons. Mais là, vous savez que le local maintenant va être pérennisé au niveau de Radio Canu, mais c'est vrai que du coup, il faut toujours un peu de thunes. Et il faut aussi un peu de thunes, notamment, il y a un appel qui circule sur. Sur Rebellion, voilà, notamment par rapport à la plateforme riseup.net. Donc voilà, donc le petit texte, c'est au lieu de vous casser la tête à trouver un cadeau, de trouver un moyen de nous l'envoyer, on vous propose de faire un petit don à riseup.net, le collectif qui fournit des outils de communication informatique pour les personnes et les groupes qui militent en faveur d'un changement social libérateur. Comme vous pouvez le constater dans les crédits, dans le pied des pages du site de rebellion.info, et secouru et inspiré par riseup.net, mais aussi hébergé dans la colocation gérée par le même collectif. Cela tombe bien, en ce moment le collectif Rise Up fait son appel annuel à dons afin de pouvoir continuer à donner accès aux différents services, mail, liste mail, VPN, pad collaborative, chat, etc., etc. Et si vous vous décidez à faire un don, votre argent va dépanner entre autres les services suivants, donc la bande passante électricité, les serveurs de stockage courriel, les serveurs de liste courriel, les serveurs d'hébergement de machines virtuelles, les hébergements de projets, parce que Rise Up héberge des projets d'autres groupes radicaux à travers le monde qui bien évidemment sont des services dont on est fortement dépendant et dont nous faisons une bonne utilisation. Voilà, il donne d'autres raisons aussi pour faire un don à Rise Up. Voilà, ceci est totalement justifié de toute façon. Vous nous enrichissez avec vos articles. Cependant, faire un don à Rise Up n'aide pas uniquement votre média collaboratif, mais aussi plein d'autres gens qui utilisent leurs services, mais qui ne sont pas en mesure de faire un don. Il existe plein de militants et militantes dans des pays financièrement pillés par l'impérialisme, le néolibéralisme et le capitalisme. Et il est préférable qu'ils et elles donnent de l'argent à des collectifs locaux plutôt qu'à eux. Alors, ton argent soutiendra non seulement le travail de Rise Up, mais aussi l'énorme base de militants et militantes qu'ils et elles soutiennent. Voilà donc quelques idées de quoi faire pendant les jours qui viennent. Cela ferait du bien à beaucoup de militants et militantes et aux petits oiseaux de Rise Up. Donc n'hésitez pas. Si vous avez de toute manière une adresse Rise Up, quand vous vous connectez sur la page d'accueil, vous avez une espèce de petit thermomètre qui indique où en est l'appel à don annuel. Et donc après, il y a le lien pour faire vos dons. C'est help.riseup.net/fr/abothouse/donate. Donc voilà, vous allez faire un petit tour là-bas. Aussi pour vous dire par rapport à l'actualité, on fera sûrement alors soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, un petit point sur l'actualité national, on va dire, sur tout ce qui se passe par rapport à l'état d'urgence. On y revient un peu toutes les semaines. Vous êtes sûrement au courant qu'aujourd'hui, donc, avait lieu une allocution de notre cher président ou du premier ministre, je sais plus, devant le voilà.
Ils n'ont pas la même
pour,
voix.
Voilà, ils n'ont pas la même voix. Moi, j'ai pas écouté. Je suis juste allé faire un petit tour pour faire effectivement ce changement constitutionnel, enfin, cette proposition de loi de changement constitutionnel pour ancrer l'état d'urgence durablement dans notre société, dans la vie de tous les jours. Donc, ils n'auront plus besoin de le prolonger comme ils voulaient le faire au départ tous les 3 ou tous les 6 mois. Là, ça risque d'être ancré. Enfin, il y a de gros risques que ce soit ancré donc dans la Constitution et que ce soit du coup un droit pour tous les gouvernements. De l'imposer à un moment donné ou de manière
continuelle,
voilà. Et il y avait un autre débat qui commençait à se faire depuis
permanente.
Merci. Il y a un autre débat qui se fait depuis 2 jours, voilà, sur un peu un appel symbolique, mais voilà, qui faisait un peu du bruit, notamment au niveau de l'échiquier politique à la droite et l'extrême droite, c'est-à-dire mettre aussi dans ce projet-là la déchéance pour les binationaux, pour des risques, notamment liés au terrorisme. Voilà, depuis 2-3 jours, on disait, mais jamais ce sera fait, parce que voilà, c'est quand même un gouvernement de gauche, entre guillemets. Ils n'iront pas jusque-là. Et ben, petite surprise ou pas, cet après-midi, dans l'allocution, du coup, du Premier ministre ou du Président, et ben, se trouvait cette proposition-là. Donc, tout le monde applaudit des deux mains à droite et à l'extrême droite. Donc, les 4 députés FN qui sont à l'Assemblée nationale voteront pour cette loi. Voilà, ça tiraille un peu à gauche, mais voilà, donc du coup, ils ont continué sur cette ligne-là très directrice, très sécuritaire. Donc on fera peut-être une analyse un peu plus poussée la semaine prochaine ou dans 15 jours par rapport à ce changement constitutionnel qui sera étudié, je crois, début février. Donc on a encore le temps d'expliquer tout ça, de réexpliquer ce que c'est l'état d'urgence, ses conséquences pour votre vie de tous les jours. Voilà, il y a un collectif qui est en train de se monter sur Lyon. On espère qu'à la rentrée, ça partira de plus belle et qu'on pourra aussi occuper la rue comme ça se fait un peu ailleurs en France contre cet état d'urgence. Donc voilà pour ces petites pages. On va faire un peu de local. Voilà un petit article qui a été publié le 18 décembre sur chez nos camarades de Rébellion, avec des nouvelles des vacataires de l'enseignement supérieur. On avait fait des grandes pages de l'année dernière suite à un mouvement de grève. Bon, on en parle un petit peu dans l'article là, donc j'ai voulu l'article, puis on reviendra un peu dessus s'il le faut tout à l'heure. Donc voilà, donc cette année encore, les vacataires sont en première ligne des dysfonctionnements de l'université. Leurs contrats de travail sont précaires et obtenus selon le bon vouloir des influents de l'université. Alors que les vacataires se sont mis en grève donc l'an dernier pour protester contre leurs conditions de travail, cette année encore, la présidence de Lyon 2 continue de traiter son personnel avec mépris. En effet, aucun des enseignants et enseignantes vacataires en sciences politiques n'a encore signé son contrat de travail, alors qu'ils donnent des cours depuis le début, hein. Ils exercent voilà, pourtant tous depuis le 1er septembre, assurant la majorité des cours. Ils ne sont donc pas payés, alors même que la signature du contrat de travail avant de commencer les cours et le paiement mensualisé des salaires étaient parmi leurs revendications. La situation est transposable aux autres filières. L'université refuse sa responsabilité dans cette situation de travail illégal, allant même jusqu'à tenter de dissuader les enseignants et enseignantes précaires de protester contre leur situation. Ainsi, en anthropologie, cette année, le recrutement des enseignants et enseignantes a été pris en charge directement par la direction des ressources humaines. Auparavant, c'était les chargés de cours magistraux qui choisissaient les enseignants et enseignantes en TD, selon notamment leurs compétences dans leur discipline. On peut se douter que la DRH s'y connaisse en anthropologie. La DRH a ainsi pris le droit de décider qui aura un emploi parmi les postulants et postulantes, choisissant au passage les moins protestataires et portant atteinte à la qualité de la formation. Voilà, sûrement considéré comme un dommage collatéral. À Lyon 2, les emplois de vacataires, type de contrat à durée déterminée payé à l'heure travaillée, sont majoritaires. On en compte plusieurs milliers. Mal payés au regard du nombre d'heures passées à préparer et à donner des cours et à corriger des copies, pas payés du tout pour les surveillances d'examen. Ils concernent principalement des doctorants et doctorantes et masterants-masterantes pour qui il s'agit du seul moyen de financer leurs études. Depuis plusieurs années, leur premier salaire tombe en décembre pour les plus chanceux et chanceuses, quand d'autres attendent mars pour toucher leur seule source de subsistance. L'année dernière, un collectif s'était construit pour protester contre cet état de fait, faisant diverses actions, rassemblements devant la DRH, mobilisation des étudiants et étudiantes, pour finalement se mettre en grève pendant 6 semaines. Alors vous pouvez chercher un petit peu sur internet, vous retrouverez trace de ces luttes-là. Il y avait notamment, la dernière action, ça avait été d'installer des tentes, du coup, dans l'université, qui avait plutôt bien marché, parce que ça avait un peu décoincé la situation. Mais l'université avait alors mis en place une commission tripartite, donc constituée de la DRH, de représentants et représentantes de doyens de plusieurs filières et de représentants et représentantes des vacataires, au nombre de 3 sur une commission d'une vingtaine de personnes. Cette commission a pris fin en mai dernier. Pour quel résultat? Bon, on se le demande. On s'en rend compte à cette rentrée pour des prunes. Voilà, étudiants et étudiantes, soyons solidaires des personnels précaires des universités. Étudiants, travailleurs, solidarité. C'est-à-dire un appel de solidaire étudiant et étudiante, anciennement FSE. Donc voilà, ouais, on se rappelle que l'année dernière, il y avait eu un petit espoir avec cette... petit espoir, tout petit, hein, avec cette commission tripartite, tout en sachant qu'on touchait à la fin de l'année et qu'on savait du coup qu'il y avait plus grand monde qui allait s'en préoccuper, bah, ça repart de plus belle pour cette année. Donc on souhaite bon courage voilà, à tous ces enseignants et enseignantes vacataires qui n'ont pas de contrat de travail, donc qui ne sont pas payés, en espérant qu'il y a une mobilisation qui va renaître assez fortement de leur côté, et puis en espérant qu'il y a des soutiens un peu de partout. Donc voilà pour cette première petite page. Je vais maintenant vous parler, comme assez souvent dans cette émission, de violences policières, avec un article trouvé, il me semble, sur le site du Monde, avec quand même une petite particularité pour celui-là, avec des adolescents et adolescentes qui portent plainte du coup pour violences policières. Dénoncer des violences policières à la justice à 15 ans est généralement impensable quand on vit dans un quartier populaire. Cet homme qui condamne et éloigne quelques mois, parfois plus, un frère, un voisin, est rarement considéré comme un allié. Et ben, 18 garçons et filles du 12e arrondissement de Paris ont pourtant franchi le pas. Jeudi 17 décembre, avec le soutien de leurs éducateurs, ces lycéens ont signalé des faits de, entre guillemets, violence volontaire aggravée. d'agression sexuelle aggravée, de discrimination et d'abus d'autorité de la part des policiers au procureur de la République de Paris. Leur quotidien était devenu invivable. La plainte est déposée contre X, mais dans toutes les têtes, X a un nom. C'est les Tigres, comme se surnomment les policiers de la brigade de soutien de quartier, la fameuse BSQ. Voilà. Partager un sandwich avec ces jeunes du quartier Reuilly-Montgalais, un quartier dense mais pas franchement difficile, coincé entre la gare de Lyon et la place de la Nation, ils vous expliqueront les contrôles, c'est au minimum une fois par jour, parfois plus. Certains dérapent. Les violences dont ils parlent ont eu lieu entre l'été 2013 et l'été 2015. Seuls ont été retenus pour la plainte celles pour lesquelles des témoins pouvaient confirmer leur dire. Comme s'il mentait sur le reste, quoi. Une enquête préliminaire a été confiée à l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, la police des polices. La police n'a pour le moment pas souhaité réagir. Désolé. Le premier événement, reflet de tant d'autres, remonte à été 2013, un soir de Ramadan. Il est 20h, Jérémy rentre chez lui avec un copain. Deux policiers les arrêtent et procèdent à une palpation de sécurité, entre guillemets, hein. L'un musclé, entre guillemets, toujours entre guillemets, les cheveux noirs coiffés avec du gel, lui met, entre guillemets, les doigts dans les fesses. Arrête de te contracter, laisse-toi faire, lui ordonne-t-on. Jérémy aurait reçu un coup dans les côtes et à son ami aussi, on a mis un doigt dans les fesses. Les vérifs, c'est une fois par jour, les doigts dans les fesses au moins une fois par semaine, estime Yacine. Le défenseur des droits n'a pourtant de cesse dans ses décisions de déplorer le caractère systématique de la palpation de sécurité, une atteinte à la dignité humaine, si rien ne laisse penser que la personne dissimule un objet. Dans tous les cas, elle doit intervenir dans un local retiré du commissariat, rappelle les avocats des adolescents, et la présence d'un médecin est indispensable pour toute fouille approfondie. S'opposer à un contrôle de ces fameux tigres expose à des représailles. Lors des vacances de Noël 2013, trois policiers contrôlent Mamadou et ses amis qui traînent sur un banc. Mamadou voudrait qu'ils laissent les filles en dehors de tout ça. L'avocat est jeté à terre. Le lendemain, les tigres patrouillent en voiture. L'un d'eux aurait ouvert sa fenêtre et a grippé le garçon par le bras, le forçant à marcher à l'allure du véhicule. L'avocat, entre guillemets, finit par se libérer, c'est le surnom du gamin. « Rébellion », crient les agents, qu'il aurait alors plaqué contre le mur et frappé au niveau des hanches. La vue de la police fait fuir les jeunes des quartiers, c'est un réflexe, qu'ils aient quelque chose à se reprocher ou non. On se rappelle à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis en 2005, Ziad et Bouna sont morts d'avoir couru. Un soir d'avril 2014, nouveau contrôle d'Al Rosanov dans le 12e. L'un des agents fait signe à Alassane et Mamadou d'approcher. Il refuse, s'éloigne, puis court. Barrage, plaquage contre le mur. Mais pourquoi courez-vous ? Demandent les policiers. La peur, répondent les garçons. Les cartes d'identité volent. Ramassez bande de chiens, ordonnent les tigres. Les coups partent. Alassane est frappé au visage, Mamadou à l'épaule. Du gaz lacrymogène fuse. L'épicier à qui les garçons ont demandé du lait pour calmer leur brûlure a vu les policiers repasser hilar en balançant. Alors les singes, la prochaine fois, vous ne courrez pas. Voilà, il y a encore d'autres choses, hein. On pisse sur le Ramadan, espèce de Libanais de merde, connard, sale noir. À chaque contrôle, les insultes pleuvent. Le conflit jeune policier d'Al Rosanov dure depuis plusieurs années. Les grands frères disent avoir connu les mêmes brimades. Mais maintenant, ils s'en prennent aux petits dès 12 ans, déplore un presque trentenaire. De la musique écoutée sur un téléphone en fin d'après-midi, paf, contravention pour tapage nocturne. Une balade entre copains le long de la promenade plantée, une invitation ferme à rentrer chez soi. Qu'ils osent répondre, avoir l'autorisation de leurs parents, c'est une clé de bras. Les jeunes d'autres quartiers n'ont rien à faire ici, s'ils ne comprennent pas, c'est la gazeuse. Longtemps, les parents n'ont rien su. Quand le commissariat appelait, la police avait forcément raison. À force d'être contrôlé, un garçon de 13 ans a été envoyé un an au Mali par sa famille. À présent que les langues se délient, les adultes réagissent un peu plus. Le 5 janvier, une intervention en bas d'un immeuble a fait descendre une mère. « Fermez-la ou je vous embarque », s'est-elle entendue répondre quand elle a demandé leur matricule au policier qui l'aurait ensuite nargué sans jamais le lui donner. La violence se déroule aussi au commissariat. La mère de Théo constate régulièrement des traces de coups et de brûlures au gaz lacrymogène sur le visage de son fils quand elle l'y récupère, écrivent les avocats. Le 22 avril, 6 jeunes s'enfuient de la dalle à la vue des policiers. L'un des 6 est rattrapé, jeté à terre, gazé. Au commissariat, il se retrouve seul dans une pièce. Un agent attend qu'il se déshabille. « Alors, t'as mal ?» lui demande-t-il à la vue du visage rougi par le gaz. « Attends, je t'en mets de l'autre côté. Est-ce que vous allez dire ce que vous avez fait dans la salle de fouille ?» demande le garçon en sortant. « Bah, écoute, si tu veux déposer plainte, il n'y a pas de problème, il y aura du répondant, lui a-t-on retorqué. » Une médiation a été tentée par les éducateurs de l'association Soleil et le service de prévention de la police. La mère du 12e a ouvert les terrains de sport, développé la danse, les ateliers d'écriture. Blablabla, mais il y a eu des représailles, les policiers n'aiment pas les balances, expliquent les jeunes. La situation empirant, l'ONG Anglo-Saxon Open Society Justice Initiative les a encouragés à porter plainte. Le duo d'avocats qui défend le dossier n'en est pas à son coup d'essai. En juin, ils ont obtenu pour la première fois la condamnation de l'État pour faute lourde pour une série de contrôles d'identité au faciès. Une action là encore soutenue par Open Society, cette même ONG qui avait financé une étude menée à Paris en 2007-2008 sur les contrôles discriminatoires. Les résultats confirmaient ce que les associations dénonçaient depuis des années en France. France. Lorsqu'on est noir ou d'origine arabe, on risque respectivement 6 et 7,1 fois plus de se faire contrôler que lorsqu'on est blanc. L'étude disait aussi que les personnes habillées, entre guillemets, jeunes, représentaient 10% de la population étudiée, mais étaient contrôlées dans près de la moitié des cas. Voilà, Brian, Kevin, Théo et leurs amis qui portent des vestes de sport et ont des parents bien souvent nés à l'étranger cumulent donc tous les handicaps. Donc voilà pour ce petit article sur les violences policières. Et j'ai vu aussi, il me semble, sur le site de Paris Lutte Info, un article aussi avec un appel à dons, il y en a beaucoup, mais du coup, du collectif Justice, notre police assassine. Voilà, et avant de faire la première petite pause musicale, deux autres petites brèves. Il y a eu un rassemblement de solidarité avec les migrants à Paris, les migrants et les migrantes. C'était un samedi, donc il y a eu 1500 personnes. Il y a eu de nouveau quelque chose. Il y a eu un appel à rassemblement, pardon, pour ce soir. C'était à 18h sur la place de la République. Voilà, à la fin de la fameuse manif dont je vous parlais samedi dernier, le samedi 19 décembre. Une centaine de migrants et de migrantes à la rue est restée donc place de la République pour y passer la nuit. Si leur présence est entre guillemets tolérée par les autorités, c'est à la condition qu'ils n'affichent aucune banderole revendicative, ni n'installent bâches ou tentent pour s'abriter. C'est sympa. Et j'ai voulu le communiquer du coup des migrants et migrantes de la place de la République. Nous sommes réfugiés et nous venons de différents pays. Aujourd'hui, nous avons participé à la manifestation. Nous vivons à la rue depuis 8 mois pour certains, 1 an pour d'autres. Nous sommes 200 personnes, toujours sans logement et sans papier. Nous avons décidé de rester place de la République jusqu'à ce que le gouvernement nous donne des logements, la justice, des droits et des papiers, car nous n'avons pas d'endroit où vivre. Nous continuerons à manifester jusqu'à ce que le gouvernement nous donne une maison. Donc voilà pour se communiquer. Des migrants et migrants de la place de la République, on va suivre un petit peu aussi ce qui se passe, on vous tiendra au courant. Donc voilà, il y avait un appel à rassemblement, à solidarité, c'était tout à l'heure à 18h à Paris. Donc pas de news pour le moment, c'est normal. Mais on vous tiendra au courant dans les prochaines émissions. Et enfin, un dernier petit truc avant la première pause musicale, avec une grosse rafle au foyer Adoma, Marc Séguin, donc c'est dans le Paris, c'est à Paris aussi, dans le 18e arrondissement. Donc l'ADOMA, qui gère tout ça, veut punir les résidents qui sont en grève des loyers depuis plusieurs mois. L'État veut accrocher une rafle à son très maigre palmarès de l'état d'urgence en dirigeant ses coups contre les militants, les manifestants, les habitants des quartiers populaires et les travailleurs immigrés des foyers. Mercredi 16 décembre au soir, la police assistée de la direction ADOMA, ex-Sonacotra, est intervenue au foyer Marc Séguin. Chambre par chambre, tous les résidents sans papier, sans récépissé ont été raflés et embarqués. Ensuite, la police a fait le tri. Certains ont été relâchés, les autres ont été gardés et sont encore au centre de rétention de Vincennes. Décidément, les petites recettes gouvernementales ne changent pas. L'état d'urgence qui permet tout à la police. Quel rôle joue l'ADOMA dans cette histoire? Le bon petit soldat ou pire, cogner le plus fort possible les résidents du foyer, car ces résidents sont en grève de loyer depuis de longs mois. L'ADOMA a déjà fermé brutalement leur bar et leur cuisine collective et a chassé tous les petits commerçants. Il y avait largement matière à concertation dans ce foyer, mais l'ADOMA a choisi la manière la plus brutale et la plus scandaleuse. Elle revient à ces tristes méthodes qui privilégient la répression policière la plus brutale à la concertation et à la négociation. Et aujourd'hui, c'est le niveau au-dessus, niveau rafle. Aujourd'hui, les sans-papiers de ce foyer font les frais de l'état d'urgence. Il y a 2 semaines, c'était les résidents du foyer Coalia Grossol d'Aulnay, chaque fois à la demande du gestionnaire. Pourtant, ne pas oublier, ces travailleurs immigrés sont venus travailler, fuyant des pays sahéliens pauvres, confrontés à la guerre et victimes de la sécheresse, réfugiés économiques, politiques et climatiques tout à la fois. Les sans-papiers payent leurs cotisations, leurs impôts. Ils consomment en France avec leurs maigres ressources. Ils participent à l'effort du développement de leur famille et de leur région d'origine, école, centre de santé, adduction d'eau, reforestation, etc. Venir les rafler dans leurs chambres, c'est illégitime et indigne. Ce n'est pas en raflant les sans-papiers jusque dans les chambres de foyer que le gouvernement et les gestionnaires vont se grandir et nous convaincre de leur efficacité. Nous demandons que toutes les personnes interpellées soient remises en liberté et régularisées et que les travailleurs des foyers puissent être protégés et vivre en sécurité dans leur domicile privé. Donc voilà pour cette première page d'infos en vrac, hein, voilà. Et puis on va commencer du coup se faire une petite pause musicale.
Alors une pause musicale avec un chant dit révolutionnaire que l'on entend beaucoup en ce moment, un peu partout, sur les radios, les télévisions, dans la rue même, dans des réunions publiques. À tout bout de champ, en fait, donc à tout bout de champ révolutionnaire, eh bien, on va écouter, c'est sur le CD, Les Chants de la Liberté, c'est Aux Armes Citoyens, c'est un petit peu long, mais ça vaut le coup. Voici, ça part tout de suite. «
Allons enfants de la pénurie, les jours de révolte sont arrivés. Contre nous de la bourgeoisie, le capital sanglant est levé. Ces flics sont toujours en campagne, barbares et serviles soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, matraquer nos fils, nos compagnes.
Aux armes, citoyens.
Que veulent ces villes marchands d'esclaves, empires de profits assoiffés, pour qui ces ignobles entraves, ces fers de longtemps verrouillés. Salariés, cet affreux servage est notre triste destinée. C'est nous qui, toujours exploités, subissons le moderne esclavage.
Aux armes, salariés.
Cette bourgeoisie méprisable voudrait qu'on aime le travail forcé, nous fait taillables et corvéables, nous impose le chômage planifié, tandis que par les rues des hordes de miséreux vont sans abri. Dernier rebut de l'industrie qui de générosité déborde. Abondamment on nous pressure, on traque en nous le moindre sou. C'est l'étatique dictature qui ne nous épargne aucun coup. Si dans le peuple l'austérité règne, les bourgeois spéculent à l'envi. La corruption fleur d'industrie dans la famille marchande de beignes.
Aux armes prolétaires,
de toutes parts on nous contrôle, dans le métro et dans la rue, partout le laid visage de la geôle, notre société est devenue. Les cartes à puce fliquent à leur aise, informent à flics, vidéo flics, dans ce vil monde cybernéflique, les robots n'ont jamais de malaise.
Aux armes, citoyens.
Sur ce terreau de fertile misère, la démagogie débridée, le racisme, la ruse mensongère cherchent à séduire les attardés. C'est le despotisme sanguinaire qui ressuscite un fureur, captieux et cynique imposteur, ennemi de la cause populaire. Les bureaucrates sont des perfides qui mentent et trahissent sans répit. Leurs menées sont liberticides, des tyrans naissent de leur hiérarchie. Nous devons de les combattre, de boycotter syndicats partis, de conquérir notre autonomie et ainsi leur pouvoir abattre. Soldats amis, cœur magnanime, refusez de porter vos coups. Ralliez notre lutte légitime si l'on vous arme contre nous. L'oppression chez vous aussi règne, la hiérarchie courbe les fronts. Trop souvent fusent les vexations et vos supérieurs vous dédaignent.
Soldats et travailleurs.
Tremblez bourgeois et vous fascistes, bureaucrates, syndicats, partis. L'ignominie capitaliste peut demain recevoir son prix. Votre société de misère, d'exploitation, de pollution, d'oppression et d'aliénation, le peuple veut l'envoyer sous terre. Désir de la vraie démocratie, conduit soldats et travailleurs, liberté toi, clone asphyxie, combats avec tes défenseurs, entraîne-nous vers la victoire, nous suivrons tes nobles accents, qu'en expirant le système marchand, voit ton triomphe et notre gloire.
Aux armes, citoyens, supprimons l'oppression. Aux armes, citoyens.
Eh bien, rebonsoir, vous êtes toujours à l'écoute donc d'Idées Noires, l'émission des militants et militantes de la coordination des groupes d'anarchistes. Et nous allons passer, comme d'habitude, à une salle de lutte sociale.
Et on va partir dans le cadre des petites misères, et c'est un euphémisme. Quand je dis les petites misères, c'est de l'état d'urgence, puisque la police en fait ses choux gras et largement. Cette misère, elle est arrivée à une militante de ELV, donc les Verts, qui avait organisé une marche à Cherbourg fin novembre, une marche pour le climat, et elle a été interpellée par les susnommés, donc les flics chez elle, à son domicile à 22h pour avoir maintenu cette marche. Donc voilà, il y en a d'autres comme ça, on en tâchera d'en mettre quelques-unes dans nos différentes émissions qui suivront. La répression, elle est rude, elle est aussi à la poste. Une factrice d'Issoudun a osé refuser un travail qui allait à l'encontre, donc était contraire des prescriptions du médecin, licenciée pour faute grave après une mise à pied. Faut préciser que cet employé de la poste est représentante syndicale de la CGT et que son action syndicale a quelques poids dans son établissement. Ça sera donc pour elle et pour la direction des PTT les prud'hommes. Répression syndicale et aussi des luttes de travailleurs. Donc on revient sur Amiens avec la grande maison Goodyear, enfin qui n'existe plus là-bas. Alors que faire, je dis bien que faire, pour disloquer l'historique d'une lutte qui colle aux fesses de la gente patronale? Eh bien, je vais vous en donner quelques réponses. C'est d'abord engager le poids, l'influence d'un ministère et l'influence d'un ministère, et en l'occurrence celui de la justice, un procureur hargneux, besogneux, un réquisitoire adressé au juge qui demande expressément de condamner. C'est ce qui est arrivé à 8 délégués de Goodyear devant ce juge précisément. Alors des peines allant de 24 mois, des peines de 24 mois de prison, dont 12 fermes, pour dénoncer cette justice de classe du ça passe et ça casse. Eh bien, ça continue à Amiens dans la lutte avec un rassemblement le 12 janvier 2016 devant le tribunal d'Amiens en soutien donc à ses 8 camarades, à ses 8 délégués syndicaux. La clinique de Pont-de-Chaume, j'en avais fait une petite rubrique donc la semaine dernière pour dire que c'était terminé, hein, en fait que le protocole de fin de conflit avait été signé, que des avancées avaient été obtenues, certes, mais entre autres actions des salariés, je rappelle quand même 51 jours de grève, 10 jours de grève de la faim aussi pour quelques-unes de ces employés de cette clinique. J'en avais oublié une quand même, elle est d'importance puisque c'est une occupation aussi du local de campagne de Carole Belga, qui est une pointure socialiste, hein, qui se présentait donc sur les listes régionales du côté de Toulouse. À Nantes, avec des employés, enfin des agents et des agentes de la ville qui sont en colère, des personnels employés dans les établissements d'accueil pour seniors, c'est les EHPAD, hein, autrement dit, hein. Donc les seniors sont des personnes âgées, bien entendu. Donc donc ces agents et agentes dénoncent leurs conditions de travail par manque de personnel. Alors très lourdes les conditions de travail, surcharge de travail également, donc épuisement et explosion, donc des arrêts de travail, et paf, donc il y a aussi une explosion du nombre des seniors, enfin des personnes âgées dépendantes et dépendants. Donc tout ça, ça fait beaucoup de boulot, et les revendications n'ont rien arrangé. Il y a aussi les moyens supplémentaires, dotations, tout ça qui est au point mort bas, je dirais, pour un service public de qualité pour nos vieux et nos vieilles. La Poste, on y reviendra encore assez souvent, je pense. C'est en grève, plus que...
Hein ? Non, je pense aussi un peu partout, La Poste.
Oui, La Poste, il y en a partout de La Poste. Hein.
Du coup, les conflits sont assez récurrents, mais vraiment de partout.
Oui, bien sûr, vous allez voir ça déjà. Donc, La Poste en grève, plus que jamais. C'était là, cette fois, à Saint-Germain-en-Laye, à Conflans-Sainte-Honorine, à Noisy-le-Roi, tout ça c'est en région parisienne, une soixantaine de personnes, c'était le 11 décembre, à Maubeuge aussi, avec cette fois piquet de grève quand même, dès 6h30 du matin et 24 grévistes, et dénoncer ici ou là-bas d'ailleurs les nouvelles organisations, les mises en place, etc., etc. À Taden, c'est du côté de Dinan, c'est même à côté de Dinan, dans les Côtes d'Armor. Ce sont les gavottes qui sont en grève. Alors, qu'est-ce à quoi les gavottes, allez-vous me dire? Ben, c'est une crêpe bretonne, la crêpe dentelle, hein, pour ceux qui connaissent et qui sont gourmands et gourmandes. Bon, ben là, c'est quand même les salariés, hein, on ne les prend pas pour des gavottes, même si ça devient de plus en plus courant et récurrent. Là, ici, à Taden, ce sont les NAO, hein, les négociations annuelles obligatoires, qui sont sans dentelle. C'était au 15 décembre. Les 2% demandés par les salariés fait mal aux gencives patronales, qui, réduites à 1%, ne fait pas l'unanimité. À Perpignan, cette fois, avec un débrayage chez KFC, c'est dans la resto rapide, la restauration rapide, qui est installée ici à Perpignan depuis 2011. 6 salariés sont sous le coup du licenciement rapide, comme la restauration proposée par KFC. Et licenciement, bien sûr, abusif, c'est rien de le dire. La direction leur reproche d'avoir déclenché le signal, un signal d'alarme incendie. 25 employés ont décidé donc de gréver en soutien. La méthode de la faute professionnelle, c'est très pratique quand les affaires vont pas très très bien. En Dordogne, à Mussidan et à Sourzac, là aussi, il y a des bureaux de poste. Donc, c'est la poste qui est en grève ici aussi. Des centres de tri et des postiers et postières de la CGT. Alors, devinez quoi? C'est aussi la réorganisation. Ça passe pas. Nos passaranes. En Meurthe-et-Moselle, me direz-vous, il y a la poste, certes, mais là sont plutôt les foyers de l'enfance. Alors on passe des vieux qui sont maltraités aux enfants, à la petite enfance qui est maltraitée, vous voyez un petit peu. Donc sont les foyers de l'enfance. Le personnel exige l'augmentation de l'effectif. 8 postes pour compenser le manque sur 13 foyers du département. Les suppressions de postes avaient été finalement cachées et c'est le planning qui a révélé l'escroquerie. Et bien sûr, grève dans la foulée et sont employés dans ces établissements 450 personnes. À Pau, c'est les Galeries Lafayette, cette fois c'était le 18 décembre, avec une grève pour ce qui semblerait une jalousie entre collègues. Heureusement, ça ne l'est pas. Toutefois, ce qui a déclenché la hire à Pau, eh bien c'est bête en fait, c'est une prime de 1000 euros. Aux collègues parisiens et parisiennes pour, je cite, « bons résultats et conditions de travail difficiles ». Alors, à Pau, ils et elles se sont tapés sur le ventre, évidemment, vous avez compris, pour cette prime. La raison patronale, c'est que résultats insuffisants et qui plus est, selon la direction, l'attribution de la prime à tout le personnel mettrait en danger les galeries Lafayette. Les rémunérations variables ont fait donc monter la colère. Sodexo, maintenant, j'en avais parlé un peu la semaine dernière aussi, c'est à Pont de Vivaux, mais enfin là j'ai fait un petit peu celui qui connaît, c'est du côté de Marseille, c'est tout bonnement Marseille, et c'est là que se situe la cuisine centrale. À 6h du matin, il y avait des blocages des salariés pour le soutien de 23 mises à pied, dont 19 licenciés secs. Il y a eu une cinquantaine de participants. Aucune sortie de véhicule. La répression est intervenue après une grève donc devenue illimitée. Sur le blocage, il y a eu intervention des flics, donc des CRS, sur une décision du TGI. Suite à ce mouvement de grève, une dizaine d'établissements du groupe, dont celui de Lyon, entamaient donc des actions de soutien en forme de débrayage, selon la CGT. à Cayenne maintenant, très loin de chez nous, mais finalement chez nous aussi, hein, c'est en Guyane. Et pourquoi pas là aussi des grèves, c'est à la clinique Véronique, personnel en grève. Des débrayages avaient déjà annoncé la couleur il y a quelques semaines pour protester contre l'absence d'écoute de la direction. Les NAO aussi, hein, les négociations annuelles obligatoires, ont déclenché la IR également ici des travailleurs et des travailleuses du groupe Kappa Santé. Alors toujours de ce côté, de l'autre côté de la planète, hein, finalement, avec la, enfin pas tout à fait, mais finalement, je crois que géographiquement c'est pas tout à fait de l'autre côté, mais enfin bon, avec la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, là sont en grève les salariés de Orange SA et l'intersyndicale FO Sud CGTG, CFE CGT, CGTM, CDMT et UTG pour dénoncer la souffrance au travail ressentie de plus en plus, absence de dialogue social, management à la hussarde, aucun accord n'est venu améliorer la situation, donc CQFD, grève. À Tarbes, c'est les Galeries Lafayette, encore une fois, donc même motif, même punition capot. Les grévistes, ce 19 décembre, ont dénoncé cette forme de favoritisme, cette forme de discrimination. On s'investit autant qu'en province qu'à Paris. C'était un mouvement national et pas pour amuser finalement la galerie. Alors, je ne vais pas faire toutes les villes hein, où il y a eu des mouvements de grève. Il y a eu Besançon notamment, Bordeaux, Angers, Toulouse et bien d'autres encore. À Vierzon, dans le Cher, c'est l'hôpital, donc ici, c'est le 18 décembre, avec une grosse mobilisation du personnel, tous services confondus, et tous et toutes d'accord pour lutter contre un tour de vis budgétaire de la direction, avec un rassemblement qui a amené 200 personnes en protestation à une réunion du conseil de surveillance de l'établissement. Pontivy, c'est dans le Morbihan avec le 20 décembre, hein, une manifestation contre le racisme et la xénophobie. 200 personnes ont participé malgré l'interdit de la préfecture. Ce rassemblement des habitants et habitantes, eux et elles-mêmes, était accompagné par le collectif contre le racisme et dénonçait une manifestation d'un groupuscule qui a été créé en 2000, l'ADSAV, A-D-S-A-V, c'était une manifestation qui avait eu lieu le 14 novembre. L'ADSAV, l'ADSAV, autrement dit, est un mouvement nationaliste breton, attaché, lié même, je dirais, à l'extrême droite. Ensuite, c'est à Lys, dans le 91, avec un site, une plateforme logistique qui est en ébullition, de chez ID Logistique, autrement dit, c'est la plateforme de distribution et de logistique de Intermarché, hein, pour rien vous cacher. Donc 130 travailleurs, dits opérateurs, enfin ils sont magasiniers, livreurs, etc., préparateurs de commandes. Donc préparation et livraison pour cette enseigne donc qui est Intermarché. Ils sont en grève depuis le 7 décembre. Alors on tourne ici en 3x8 hein, pour ce qui est du travail sur le site. Grève qui a débuté spontanément selon l'intersyndicale après avoir appris que les primes de production en étaient réduites à une portion congrue, occasionnant une perte de 10 euros par jour et par préparateur. La direction a assigné les grévistes au tribunal et a demandé l'expulsion. Celui-ci a, donc le tribunal a débouté celle-là, donc la direction, et la grève continuait le 16 décembre. À Paris, c'était le 17 décembre avec 88 jours de grève pour les salariés de l'entreprise de nettoyage OMS qui assure, je le rappelle, hein, puisque j'ai fait pas mal de petites rubriques là-dessus, donc qui assure l'entretien des immeubles HLM de Paris Habitat, hein, qui est cet organisme de logements sociaux de la capitale. Il y a eu un rassemblement de soutien le 17 décembre devant l'hôtel Marriott à Paris dans le 14e arrondissement, à l'initiative de la CGT Hôtel de prestige et économique, en soutien donc aux grévistes. Alors pour préciser que cet hôtel qui est propriété de Solitis, une filiale de OMS Nettoyage, eh bien cet hôtel sous-traite, enfin cette entreprise Solitis sous-traite l'hébergement social. Les grévistes exigent toujours bien une revalorisation salariale, une qualification, un 13e mois, des équipements pour pouvoir travailler. Respect aussi du code du travail est exigé. Les licenciements ont été refusés par l'inspection du travail, qui touchait notamment et principalement des délégués syndicaux. Et préciser aussi quand même que la CNTSO, Solidarité Ouvrière, prend part aux négociations et aux luttes de ces travailleurs et de ces travailleuses sur Paris.
Oui, et puis même aussi là aussi une demande de solidarité concrète et directe. Voilà pour les grévistes, notamment financières. Donc voilà, donc là la CNTSO se charge de récupérer tout ça. Donc les chèques peuvent être adressés au syndicat, donc CNT-Solidarité Ouvrière du Nettoyage. 4 rue de la Martinique, 75018 Paris, avec la mention derrière le chèque, soutien aux grévistes OMS. Donc voilà. Et je rajouterai aussi, mais ça c'est des luttes pour demain. Alors il me semble qu'il doit y avoir un article sur Rébellion sur cette question-là. C'est par rapport à ce fameux délégué syndical de McDo, la Guillotière. Il y avait eu un premier rassemblement il y a quelques temps devant le McDo parce qu'il devait passer au tribunal administratif et ça a été reporté à demain, donc le 24, demain matin. Donc il me semble qu'il y a un appel sur Rébellion qui en parle avec un rendez-vous, alors il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, mais allez vérifier, il me semble, à 7h25 du matin à la Guy devant le McDo pour se rendre ensemble au tribunal. Donc n'hésitez pas à aller le soutenir. Et de mémoire aussi, demain il y a un mouvement de grève lancé par le syndicat de la Tour La Part-Dieu, donc voilà, qui regroupe un peu tous les magasins, voilà, avec un appel à la grève pour demain. Donc vous aurez, si jamais vous allez à La Part-Dieu, ce qui est mal demain, vous aurez peut-être des gens qui vont distribuer des tracts pour vous expliquer tout ça. Donc allez discuter aussi un peu avec eux et elles pour leur redonner un petit peu de voilà un petit peu de solidarité directe. Et il me semble qu'aussi dans les carrefours demain, c'est jour de grève. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous tenir au courant de tout ça. Voilà, on en reparlera sûrement du coup.
Il y a Dardilly, il y a voilà, Vénissieux. Je pense que ça va être un courant de grève qui va se produire dans ces magasins-là. Quoi.
Voilà. Et donc comme il paraît que c'est bientôt Noël, hein, c'est ça. Donc une petite chanson, une petite pause musicale pour Noël. On y go.
C'est parti.
Cette tournée, c'est pas facile de réussir à regrouper tous les plannings des 4 groupes, 5 groupes présents ici ce soir. Donc on s'est tapé un petit mois de folie pendant le mois de février. Et ce soir, c'est chez vous qu'on termine ce putain de mois de folie. Alors il va falloir tout lâcher aussi pour nous. Et donc ce soir pour nous, eh ben je dirais que c'est un petit peu Noël quoi.
Ce soir, ce soir, c'est Noël. Il neige sur le Mont-Saint-Michel. Ce soir, ce soir, c'est Noël.
ce soir, c'est Noël.
Eh bien, si on avait un Père Noël aussi pétant, disons...
Donc à passer dans pas votre mal. Famille, si vous faites
parce
Noël
que Pépère,
demain,
là, disons, nous en a servi une tartine. Les enfants qui écoutaient, n'écoutaient pas, bouchez-vous les oreilles. T'as un gros ventre, barbe blanche, lunettes, nez un peu rouge.
Genre. Donc voilà, c'était une reprise d'un morceau des
Ça ne nous regarde plus.
par le bal des enragés, donc voilà.
D'accord. Bah, vous êtes toujours à l'écoute de Idées Noires jusqu'à 21h et on va reprendre avec quelques infos.
Voilà, quelques infos en vrac hein, pour ce soir. Il nous reste encore un petit quart d'heure avec un article trouvé, il me semble, aussi sur Paris Lutte Info, donc avec un blackout au Ménil-Amélo. Donc Ménil-Amélo, c'est un centre
Amélo.
De rétention. J'ai dit quoi ?
Amélo.
Amélo, ouais.
Amélo. Oui, je connais très bien d'ailleurs.
Ouais.
Milena-Molo.
Privé d'eau et d'électricité, les personnes enfermées au centre de rétention.
Voilà.
Donc dans le 77, voient leurs conditions de vie très dégradées depuis dimanche soir, donc c'était la semaine dernière. Mais même dans le noir, la machine à expulser continue son travail. Nous sommes dans le noir et sans eau depuis dimanche 21h, témoigne un Mauricien retenu au centre de rétention. Dans ce grand centre flambant neuf, très excentré, auquel sont accolés un tribunal et l'aéroport de Roissy, comme c'est pratique, les personnes retenues n'ont pu jusqu'à mardi matin ni se laver, ni manger chaud. Leurs téléphones sont déchargés, ils donnent de leurs nouvelles en se prêtant les téléphones qui fonctionnent encore. Les personnes en situation administrative irrégulière retenues dans ce centre ont passé toute la nuit dans le froid. Ils ont les doigts blancs, c'est insoutenable, racontait lundi un proche d'une personne enfermée. Dans les bâtiments où dorment les personnes retenues, le chauffage n'a été rétabli que mardi matin. Les personnes ont passé une deuxième nuit dans le froid. Durant toute la journée de lundi, des odeurs nauséabondes flottaient dans le centre du fait de la panne qui entraînait une panne de chasse d'eau. Voilà, de plus, le ménage n'avait a priori pas pu être fait en l'absence d'eau et d'électricité. Le groupe électrogène censé pallier l'absence de courant n'était pas suffisamment pour fournir l'ensemble des bâtiments du centre. Donc voilà, là en conséquence, ça a pu constater de graves atteintes aux droits et à la dignité des personnes. Les personnes convoquées à la cour d'appel hier n'y ont pas été escortées. Un document aurait été adressé à la cour expliquant que la panne généralisée empêchait que les personnes le soient. Plusieurs personnes convoquées au tribunal administratif se sont plaintes de n'avoir pu recevoir les documents attestant de leur situation. Aucun fax ou email ne pouvant être réceptionné au centre. Et voilà. La panne dans les bureaux, aussi de la CIMAT qui gère là-bas, ayant depuis longtemps aucune démarche juridique, ne pouvait être effectuée avec son appui jusqu'à mercredi. Les chefs de centre auraient prévenu les juridictions. Reste à savoir si les appels et recours introduits hors délai seront jugés recevables ou non. La Cour a tout de même statué et confirmé la prolongation dans la majorité des cas. De même, un juge des libertés a tenu ses audiences dans le noir, à la bougie et dans des conditions très discutables. Par contre, des mesures d'urgence ont été prises aussitôt, les visites sont interdites et les amis et familles des personnes retenues ne peuvent plus leur apporter ni vivres, ni médicaments, ni vêtements. Les téléphones portables restent autorisés à condition qu'ils ne soient pas dotés d'appareils photo. Des demandes de libération fondées sur l'atteinte à la dignité et la violation de certains droits ont été examinées mardi après-midi. Dans l'une d'entre elles, le juge ose l'écrire, entre guillemets, le maintien du retenu dans un local sans électricité et notamment sans chauffage durant l'hiver à des températures proches de 0 degré ne constitue pas encore à ce jour des conditions de rétention contraires au principe de respect de la dignité de la personne humaine. On demande ce qu'il faut du coup pour que ce soit le cas. Pour rappel, la coupure de courant et d'eau donc datée du 13 décembre à 21h30 et cela est rétabli partiellement le mardi suivant vers 15h. Donc voilà, les conditions de rétention dénoncées ont donc perduré presque 48 heures, ce qui ne suffit visiblement pas au juge des libertés qui ajoute dans sa grande mansuétude qu'il convient toutefois d'observer que cette situation ne saurait perdurer sans finir par porter atteinte au droit du retenu. Bah oui, il manquerait plus que ça. Que ça ne le soit pas. On voulait aussi vous parler d'un petit dessin trouvé sur le net, voilà, un petit communiqué qui a été trouvé d'une organisation qui s'appelle le Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires, hein, le FUUKP, une organisation dont le porte-parole est le sociologue Saïd Bouamama, également proche de Michel Colomb, qui vient de publier sur son Facebook un dessin antisémite tout droit sorti d'égalité et réconciliation. On le rappelle, d'égalité et réconciliation. C'est la bande à Sorel et Dieudonné. L'évidence de la rhétorique dieudonniste qui consiste à mettre en concurrence les victimes de la Shoah et celles de l'esclavage aurait pourtant dû sauter aux yeux d'une organisation qui se dit, entre guillemets, antiraciste. Et cet Européen blanc aux cheveux poivre et sel qui enseigne à de petits Africains, représentés eux aussi en usant de clichés racistes les plus crasses, qui porte une chemise blanche entrouverte, ne figurerait-il pas un certain philosophe, tête de turc habituelle des antisémites de tout poil, ou bien cet autre philosophe réactionnaire, lui aussi d'origine juive mais porteur de lunettes autour d'un retentissant taisez-vous dans une célèbre émission de télévision, les deux étant fondus dans une sorte de chimère au nez crochu. Jusqu'au livre tenu en main par les enfants qui sont estampillés Fernand Nathan, du nom du fondateur d'origine juive des éditions Nathan, qui édite de nombreux manuels scolaires, tout ceci ne viserait-il pas in fine à faire porter aux juifs la responsabilité du colonialisme? Mais non, pas ému pour un sou, cette organisation-là, donc le FUIQP, n'y voit que de l'humour entre guillemets, et qui plus est, au service des luttes, toujours entre guillemets. Il y a une petite mise à jour de l'article, hein, quelques minutes plus tard, après la publication de cet article, qu'on peut trouver sur le site confusionnisme.info. Le FUIQP a retiré ce dessin de son mur, mais il sera resté en ligne pendant près de 8 heures. Ensuite, on va se faire un petit tour au niveau international, avec un petit tour en Éthiopie, où au moins 75 personnes ont été tuées ces dernières semaines par les forces de sécurité éthiopiennes qui ont ouvert le feu contre des manifestations dans la région de l'Oromia, d'après l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch, une accusation qui tranche avec le bilan officiel qui lui ne fait état de 5 morts seulement. Le gouvernement a affirmé de son côté que des manifestations pacifiques, entre guillemets, avaient dégénéré en violence et accusé les manifestants de, entre guillemets, terroriser les civils. Les manifestations ont commencé le mois dernier dans la région de l'Oromia, autour de la capitale, Addis Abeba, pour protester contre un projet d'agrandissement programmé de la capitale qui a suscité des craintes d'expropriation de terres dans des zones traditionnellement occupées par le peuple Oromo. Donc cette association, la Human Rights Watch, a reçu des informations crédibles selon lesquelles les forces de sécurité ont tué des dizaines de manifestants dans les zones de Chiwa et Welega à l'ouest d'Addis Abeba début décembre. Plusieurs personnes ont dit avoir vu les forces de sécurité dans la ville de Walizo à 100 km au sud-ouest d'Addis Abeba tirer sur la foule des manifestants en décembre, laissant des corps étendus par terre et dans la rue. Le fait que le gouvernement qualifie des manifestants très largement pacifiques de, entre guillemets, terroristes et l'envoi de forces militaires représente une escalade très dangereuse, a estimé Leslie Legfo, directrice adjointe de l'Organisation pour l'Afrique, craignant un bain de sang encore plus important. Plus tôt, l'ONG avait rappelé que le peuple Oromo, qui se sent marginalisé, avait déjà subi en 2014 des violences policières. Et là, on cite, les manifestations actuelles font écho aux événements sanglants d'avril et mai 2014, quand les forces fédérales avaient tiré sur des manifestants Oromo largement pacifiques, en tuant des dizaines. Maintenant, comme à l'époque, les manifestants protestent contre l'expansion des limites municipales d'Addis Abeba dans la région environnante de l'Oromia, car ils craignent que cela n'oblige les fermiers Oromo à quitter leurs terres. Mais ces manifestations sont plus que cela. De nombreux Oromo se sont sentis marginalisés et victimes de discrimination par les gouvernements éthiopiens successifs et ont souvent eu l'impression de ne pas pouvoir faire entendre leur inquiétude au sujet de la politique gouvernementale. Les défenseurs des droits de l'homme ont à plusieurs reprises dénoncé le recours des autorités éthiopiennes à une législation antiterroriste pour museler l'opposition pacifique. Ça peut rappeler quelque chose. En 2014, Amnesty International avait affirmé que des milliers d'Oromo étaient régulièrement l'objet d'arrestations arbitraires, de longues détentions sans inculpation, de disparitions forcées, d'actes répétés de torture et d'exécutions extrajudiciaires par le gouvernement éthiopien qui les accuse de soutenir. Le groupe rebelle Front de Libération Oromo, la région de l'Oromia qui compte près de 27 millions d'habitants, est la plus peuplée du pays et a sa propre langue, l'Oromo, différente de la langue officielle qui est l'Amharic. Et on va maintenant au Danemark. Retourne en Europe. Voilà, qui voudrait bien, donc c'est un projet, hein, le gouvernement qui a présenté en novembre un projet de loi en ce sens, le sens de qui voudrait confisquer bijoux et argent liquide aux migrants et aux migrantes. Voilà, ce projet de loi devrait être débattu au Parlement en janvier. La mesure est très contestée. Le gouvernement danois a défendu donc le vendredi 18 novembre, donc il y a un mois, son projet controversé de confisquer bijoux et autres effets de valeur aux migrants et migrantes. L'objectif, hein, selon le gouvernement, financer leur accueil. C'est quand même formidable ça. Le projet de loi présenté en novembre doit être débattu donc au Parlement en janvier. Il prévoit d'autoriser la fouille des bagages des réfugiés et de confisquer tout objet de valeur ou argent liquide au-delà de 3000 couronnes danoises, donc 400 euros environ. Les montres, les bijoux auxquels leurs propriétaires manifestent manifestent un attachement particulier comme les alliances, mais aussi les téléphones portables ne sont pas concernés. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un resserrement plus large des conditions d'accueil des migrants dans le royaume scandinave. Certains médias étrangers réprouvent le fait que nous puissions à l'avenir saisir les effets de valeur des demandeurs d'asile et exiger qu'ils prennent en charge le coût de leur séjour dans des centres pour réfugiés, a écrit la ministre de l'Intégration. Elle faisait allusion sans le nommer au prestigieux Washington Post qui a tensé le Danemark. Le journal américain estime que le projet de loi a une connotation particulièrement douloureuse en Europe où les nazis ont spolié les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces critiques ne sont pas, selon eux, justifiées, a réagi la ministre. Donc du parti de droite Venstre, qui prône une immigration à minima. Le Premier ministre Lars Løkke Rasmussen a regretté un portrait erroné au Danemark. Une pétition non à la confiscation des biens des migrants avait recueilli vendredi près de 5900 signatures. Fuir des régimes brutaux et totalitaires témoigne de l'aspiration des hommes à vivre dans une société plus accueillante. Refusons que les demandeurs d'asile soient accueillis dans ce même esprit totalitaire. Désolé, je vais tousser un peu. Petite pause de boisson.
Ben oui, il faut bien humecter hein, de temps en temps quand même.
Alors on va essayer de finir l'émission, c'est un peu dur là. Il me resterait au moins une petite brève à vous donner. Et pour le reste, tant pis, on le fera peut-être une prochaine fois.
Ah parce on que tu avais encore...
J'en aurai encore un petit peu.
Chapeau.
Donc on va faire un petit tour en Tunisie ce coup-ci, où une bonne cinquantaine de personnalités est actuellement mobilisée pour dénoncer l'article 230 du code pénal criminalisant l'homosexualité. La campagne a démarré le 10 décembre à l'occasion de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et va se poursuivre jusqu'à la fin du mois. Les juges de Kairouan, pardon pour mauvaise prononciation, ont infligé 3 ans de prison aux 6 accusés. Ils sont en outre bannis de la ville pour 5 ans. L'homosexualité est toujours interdite en Tunisie, où on compte 50 condamnations par an. Donc ces 6 étudiants-là qui ont été condamnés pour homosexualité à 3 ans de prison et 5 ans de bannissement de la ville de Kairouan en Tunisie, donc, où ils ont été arrêtés le 4 décembre. Il s'agit de la peine maximale prévue par l'article 230 du code pénal qui criminalise la sodomie. Les 3 juges qui ont rendu leur décision le 10 décembre sont allés encore plus loin en décidant donc du bannissement, donc c'est l'article 5 du code pénal. La punition de bannissement est une première pour des cas de ce genre, assure l'avocate Fadwa Braham, spécialiste des procès d'homosexuels. La loi date de 1913, elle a été très rarement appliquée et concernait surtout des femmes prostituées dans les années 60 et 70. L'un des condamnés a écopé de 6 mois de prison en plus pour atteinte à la pudeur, car les policiers ont retrouvé des vidéos pornographiques sur son ordinateur. Les 6 inculpés ont également dû subir un test anal pendant leur interrogatoire, une pratique dénoncée comme avilissante par différentes associations des droits humains. Les défenseurs et proches des 6 étudiants craignent des conditions déplorables d'emprisonnement. Leur principale peur est qu'ils soient détenus dans les cellules avec des prisonniers homophobes qui pourraient s'en prendre à eux physiquement. Les étudiants vivaient dans le foyer universitaire de Rakada à Kairouan, une ville très conservatrice au centre du pays. Les circonstances de l'interpellation ne sont pas encore très claires. Selon l'association de défense des minorités Cham, ils auraient été arrêtés à l'intérieur du foyer pendant que 2 d'entre eux avaient des relations sexuelles. Pour Fadwa Braham, l'arrestation aurait eu lieu en dehors du foyer et les jeunes gens auraient été dénoncés par des voisins. Ce jugement relance le débat de la criminalisation de l'homosexualité en Tunisie. Le 10 décembre, pour la Journée internationale des droits humains, l'association Shams voulait organiser une manifestation pour le droit des homosexuels. Les autorités ont interdit la manifestation car, nous ont-ils dit, nous nous occupons de la lutte contre le terrorisme, pas des PD. S'indigne Ahmed Ben Amor, vice-président de Shams, au moins ça mérite d'être clair. L'association a décidé de lancer cette semaine une campagne virtuelle de sensibilisation. Nous allons intensifier notre campagne qui s'appelle « On existe, on est criminalisé » contre l'article 230, assure de son côté Ali Boussemi, cofondateur de l'association Maïjoudine, désolé pour la prononciation aussi, pour le droit des personnes LGBT. Il y a une véritable chasse aux homosexuels en Tunisie. En septembre, un étudiant de la région de Sousse avait été condamné à 1 an de prison pour homosexualité après avoir subi un examen anal. Grâce à son avocate, Fadwa Braham, et à la mobilisation de la société civile, il avait été remis en liberté en attendant son jugement en appel qui doit avoir lieu jeudi. Le ministre de la Justice de l'époque, Mohamed Salah Ben Aïssa, avait demandé l'abrogation de l'article 230, mais avait été aussitôt recadré par le président Béji Caïd Essebsi. Il y a plus de 50 cas donc, de condamnation pour homosexualité par an et une cinquantaine d'homosexuels qui se sont suicidés en 2015 à cause du rejet de la société ou de leur famille, voilà, estime Ahmed Ben Amor. Donc voilà, je suis arrivé au bout, c'était un peu dur. Ouais, c'était plutôt pas mal. Oui, on va essayer tout ça. Du coup, je ne sais même pas si on va pouvoir remettre
J'ai pas mis mon micro. Oui, je disais qu'il fallait aussi un peu de sirop.
Voilà. Et puis, je suis désolé,
que
mais
tout
je.
Tout le monde en profite.
Ouais. Ah, si, j'ai retrouvé le générique. On va pouvoir même remettre le petit bout de générique pour finir l'émission.
Oui, puis on va laisser la place à la lumière du frigo qui est juste là et qui a terminé son installation.
Tout à fait.
Impressionnante.
Et puis, peut-être pas la semaine prochaine, on verra tout ça.
Oui, c'est vrai. Encore une fois, point d'interrogation pour la semaine prochaine.
Et puis voilà, on verra bien. On était là,
ben
on était
oui,
là aujourd'hui. Hein,
c'est Papa prévu. Noël, c'est le Nouvel An, c'est. Enfin bref.
Donc voilà, ben peut-être à la semaine prochaine ou peut-être du coup à la rentrée.
Il est bien parti ton truc là
c'est, normalement c'est parti, on peut y aller.
Allez, bah, bonsoir à toutes et à tous.